nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, dire d'un couple que leur vie a été un roman est somme toute très banal, mais dans le cas de Simone et Cino Del Duca, ce constat est vrai jusque dans les moindres détails. On peut même dire pour Cino Del Duca qu'il aura été l'éditeur du roman de sa propre vie. Alors, le nom Del Duca ne vous dit peut-être rien, c'était pourtant l'une des plus grandes fortunes de la presse d'après-guerre, et pas n'importe quelle presse, celle du cœur. Rappelez-vous les feuilletons que vos parents ou grands-parents achetaient régulièrement, ils étaient édités par les éditions mondiales, les éditions de Cino Del Duca. Mais nous ne pouvons pas réduire Simone et Cino Del Duca à l'unique édition de la presse sentimentale. La vie de Cino est l'exemple même de l'ascension sociale. Sa rencontre avec Simone est semblable au livre qu'il publie. Cino édite des dizaines de titres de magazines féminins, également des magazines pour enfants. Il se lancera dans la presse quotidienne avec Paris Jour, ouvrira deux imprimeries, publiera également de grands auteurs tels que Kessel, Druon, Steinbeck. Il créera sa propre société de films avec des succursales en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, sans compter une large place qu'il accordera au mécénat. Pour parler en détail de cette vie romanesque, nous accueillons dans notre studio le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Arnaud Dauterive. Arnaud Dauterive, bonjour.
Bonjour mademoiselle.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez bien connu Simone Del Duca puisqu'elle était correspondante de l'Institut, donc correspondant aux Beaux-Arts, et elle a beaucoup œuvré dans la création de prix. Alors vous, Arnaud Dauterive, avez été élu en 1984 et Simone Del Duca, correspondant, est entrée à l'Académie des Beaux-Arts en 1994, 10 ans plus tard. Alors comment, Arnaud Dauterive, avez-vous fait la connaissance de Simone Del Duca?
Eh bien, je l'ai connue, j'ai connu Simone lors de son entrée à l'Académie, comme vous l'avez dit, donc en 1994. Elle a été cooptée, car vous le savez, les correspondants ne posent pas leur candidature, comme pour un académicien, j'allais dire ordinaire, s'ils sont cooptés ou proposés par les confrères et élus, naturellement, à l'unanimité. Et Simone Del Duca, compte tenu de sa personnalité, du travail, de ce qu'elle a apporté, j'allais dire, dans sa vie au quotidien, pour les artistes, a été donc élue très brillamment.
Et donc, c'est devenu une grande amie à vous.
Alors, nous sommes devenus effectivement très amis, car vous n'avez pas connu Simone. Je n'ai pas eu le plaisir également de connaître son mari, mais Simone était un personnage avec une personnalité tout à fait, j'allais dire, particulière. C'était un personnage, une sorte de petit sphinx. Quand on la voyait, on se disait... C'est un personnage difficile à percer au niveau de la sensibilité, ce qu'elle pouvait penser. Et à mesure qu'on la connaissait, lorsqu'on avait eu le privilège de l'approcher, on découvrait un personnage plein de ressources.
Très
réservé. Je ne voudrais pas tomber dans le lieu commun, mais c'est un personnage dont le physique, j'allais dire, n'était pas ce qui émanait, en fin de compte, du personnage lui-même.
Alors, son mari, Cino Del Duca, est décédé en 1967, donc elle est restée veuve très longtemps. Est-ce qu'elle faisait souvent référence à son mari, Cino?
Je dirais que son mari, une fois décédé, demeurait en quelque sorte son maître à penser. C'était en fin de compte le décalque donc dans leur vie, et chaque fois elle disait « Oh, vous voyez Arnaud, Cino... » voulait ça, il aurait fait ça, il aurait agi de cette manière. C'était curieux, je dirais même terriblement attachant, c'est le terme que l'on peut employer, de voir encore cette osmose avec un homme qui n'était plus là, mais qui représentait toujours tout dans sa vie.
Alors, en 1899, naît Tino Del Duca en Italie, puisqu'il est italien. Et il est issu d'une famille d'industriels ruinés, je crois. Mmh. En tout cas, il démarre avec pas grand-chose et doit subvenir aux besoins de sa famille, je crois.
Oui, je ne connais pas bien donc, la vie, ce qu'était la vie matérielle, en quelque sorte, de Tino. Mais bon, malheureusement, c'était le propre de beaucoup de familles d'avoir connu certaines fortunes et après de se retrouver, j'allais dire non pas sur le pavé, mais de devoir ne plus compter que sur soi-même. Et ce qu'il y a de merveilleux dans l'œuvre de Tino, du moins dans la réussite de Tino Del Duca, c'est le fait que cet homme, en fin de compte, me donne le sentiment qu'il n'avait d'abord aucun complexe. Et ceci est une qualité énorme. Je ne dirais pas qu'il n'avait pas de scrupules, mais il n'avait pas de complexe. Pour lui, il s'est lancé dans la vie. Il avait l'intelligence qui le servait, sa sensibilité. Il est un petit peu comme ce que l'on dit donc, des Américains, c'est un self-made man, c'était un homme qui s'était fait lui-même.
Alors justement, effectivement, c'est l'expression qui correspond tout à fait à son parcours. Dès l'âge de 15 ans, il prend en main la destinée des siens, c'est-à-dire ses parents et ses quatre frères. Et donc il commence à 16 ans à colporter des feuilletons, des petits ouvrages qu'il vend de maison en maison. Et petit à petit, ça lui donne des idées, puisque jusqu'à présent, ce sont des ouvrages où on parle de sang, de crime. Et il se rend compte que finalement, les personnes qui achètent ces feuilletons les achètent parce qu'ils n'ont rien d'autre à acheter, mais que si on leur proposait des romans d'amour ou à l'eau de rose, ils rencontreraient un succès également. Il a déjà de la suite dans les idées alors qu'il n'a que 16-17 ans.
C'est certain, c'est certain. Cette sorte de prémonition qu'il avait, donc de venir d'une certaine presse, parce que moi je pense d'ailleurs que cette revue, du moins c'est vous, même mademoiselle qui me l'avait dit tout à l'heure, que cette revue existe toujours, et qui s'appelait donc « Nous deux », je ne sais pas si c'était des termes, des titres, un petit peu comme on dirait vulgairement « À l'eau de rose », et que ces revues existent encore. C'est assez extraordinaire qu'une revue comme « Nous deux » perdure depuis maintenant plus de 60 ans.
Alors justement, un journaliste relatait les propos de Tino Del Duca et pour faire suite à ce que nous venons de dire, je vais citer Tino Del Duca. Les fascicules que je vendais étaient bourrés d'histoires atroces dans le style de Fantomas, enlèvements, assassinats, intrigues, flaques de sang. Et en bavardant avec mes clientes, des femmes très simples, ménagères, lavandières, fleuristes, je compris qu'elles achetaient ces romans parce qu'on ne leur en proposait pas d'autres. Elles auraient préféré de beaux récits d'amour. Mmh. Et il a donc l'idée, plus tard, lui, de se lancer dans la création de feuilletons et par la suite, on le verra avec vous un peu plus tard, de se lancer dans l'édition de magazines tels que Nous deux, Intimité.
Il était très fleur bleue.
Il était très fleur bleue.
Et il a été dans ce... Oui.
Il était très fleur bleue, effectivement, puisque arrive, nous sommes donc dans le courant des années 14, enfin, dans cette période-là, la période fasciste en Italie. Lui, Tino Del Duca, est un antifasciste et il sera emprisonné, d'ailleurs, pendant 4 mois. Et en étant en prison, il va écrire son premier roman, justement, à l'eau de rose, qu'il va écrire en cachette. Et c'est là qu'il va vraiment se découvrir un talent dans ce domaine. Et puis donc, à la sortie, il va commencer à publier de lui-même, il va commencer à voler de ses propres ailes et publier un feuilleton qui aura un succès fulgurant, le feuilleton d'une autre personne, pas le sien. Et donc, ça sera les premiers feuilletons à l'eau de rose en Italie. Donc là, nous sommes dans la période 1932. Et puis arrive le moment quand même où il va arriver en France, puisque finalement, il aimerait quitter cette Italie fasciste pour arriver en France. Il commence à mettre de l'argent de côté pour pouvoir démarrer suffisamment bien une carrière en France. Et il arrive donc en 1932 et arrive avec un stock de romans à traduire en français. Est-ce que cette période-là de l'écriture, justement, en France, qu'est-ce qui se vendait? Qu'est-ce qui se lisait à cette époque-là? Est-ce que vous avez une idée?
L'on voit, il m'arrive très souvent quand je me promène, parce que je suis un amoureux donc, des livres, de la lecture, et souvent je me promène sur les quais. Et là, vous avez, j'allais dire, l'image même de ce qu'était un certain type d'ouvrage dans les années que vous venez de citer. Bon, la jaquette était déjà très attrayante, du moins, était un élément, où le livre lui-même, la couverture, avait un caractère extrêmement probant. C'était déjà par ce qui était représenté sur la couverture que l'on attirait le lecteur. Et alors souvent, c'était des ouvrages brochés. Ce n'étaient pas du tout des ouvrages luxueux tels qu'on les connaît maintenant. Ils existaient, mais c'était une presse, j'allais dire, populaire. En plus, souvent, les papiers étaient encore très acides. Lorsque vous achetez un de ces livres, il tombe en petits morceaux comme une gaufrette. C'était pas du tout des ouvrages comme on les découvre maintenant, bien imprimés, avec une mise en page particulière. On accrochait en quelque sorte le lecteur d'abord par l'image, puis ensuite bon, par le fait que le récit c'était Fantômas, c'était donc des choses de cet ordre que l'on trouvait. Et je pense que quand il est arrivé, il apportait peut-être une vision à l'italienne que j'ai connue encore à l'époque d'après-guerre, quand j'étais moi-même à Rome. Il y avait encore toute une presse, par exemple, comme le Corriere della Sera, avec cette image qui rappelait tout à fait les journaux du début du XXe siècle, avec les images colorées représentant toujours des événements atroces, et ce qui avait été également le propre d'une revue que vous n'avez pas connue, qui était sortie peu de temps après la guerre, qui était Radar. Radar allait dans le sens d'une presse, j'allais dire, qui relatait tous les événements, les meilleurs comme les pires.
Alors, Tino Del Duca, en arrivant en France, répond tout de suite aux demandes de ses lecteurs. Et ses feuilletons se vendent dès le départ à des millions d'exemplaires.
Ça ne m'étonne pas.
Comment on l'explique ça? C'est parce que justement, entre cette période, entre les deux guerres, on cherche à lire des romans d'amour, des choses qui se terminent bien, avoir des histoires qui finissent bien, et non pas à lire des choses atroces.
Il y a eu comme ça différentes facettes pour moi personnellement. Je garde en mémoire, étant devenu un vieux monsieur quand même, mes lectures jeunes me portaient vers un certain type de lecture. Bon, c'était l'époque de la France en même temps coloniale, bon, les épopées, les découvertes, les explorateurs. Là, il y avait toute une littérature qui était donc de l'époque. Il y a eu la période, j'allais dire, qui avait succédé à la guerre de 14, où c'était au contraire des romans basés sur l'héroïsme, ce qui s'était passé dans les armées. Bon, chaque période. Alors là, je crois qu'il y a eu après, peut-être non pas une fatigue, où l'on connaissait trop bien donc le domaine traité, où les gens allaient, en tout cas peut-être les dames, vers les romans, comme on dirait, un petit peu à l'eau de rose. Oui,
c'était
en fin de compte un changement, une autre vision. C'est l'arrivée bon, d'une certaine liberté. Je ne vais pas faire l'apologie. Bon, il y a eu toute la période également du Front populaire qui a modifié également les aspirations, les buts. Bon.
Alors, fort de son succès, Tino Del Duca crée sa propre maison d'édition, les éditions mondiales. Il lance un hebdomadaire qui s'appelle Oura. Alors, je ne sais pas si c'est quelque...
Que j'ai connu, je me souviens très bien, Oura.
Oura, et puis ça va être le moment où il va éditer une quinzaine de nouveaux titres sur la mode, sur la presse enfantine, sur les astres, sur le cinéma également, et bien sûr sur la presse de cœur. Mm-hmm. Mais il arrive tout de suite à se diversifier. Il ne s'en cantonne pas justement à ce réseau de la presse de cœur qui marche très bien. Il va essayer d'étendre encore son domaine.
Mm-hmm. Oui,
donc
oui.
Encore oui. L'homme d'affaires, le businessman.
Absolument. Si vous voulez, tout en y croyant à cette presse du cœur, comme on dirait, il y croyait, c'était quelque chose qui l'intéressait, mais c'était en fait non pas un élitiste, mais un homme qui aspirait à se servir peut-être de ce volant que lui procurait une certaine presse pour aller dans des sphères autres. Il mettait la barre, permettez-moi l'expression, un peu plus haute. Et c'était donc là qu'il allait donc vers Steinbeck, vers j'allais dire Drouhon, vers...
Alors voilà, effectivement, là nous arrivons, à, quand vous évoquez donc ces noms, ces grands noms, ces grands auteurs, Kessel, Drouhon, Steinbeck, ce sont de grands auteurs. Effectivement, on pourrait penser que le nom Tino Del Duca soit associé à une certaine presse et il aurait du mal à approcher et à aborder ces grands auteurs. Finalement, ce n'est pas le cas. Il arrive à lier, avec son même nom, à lier la presse du cœur, qui est assez populaire, avec des grands auteurs
Absolument.
Qui sont à un niveau un peu
c'est
plus
élevé. C'est ça, son, j'allais dire, son génie.
Son génie.
Justement. Et alors, d'avoir choisi un personnage comme Kessel, comme Steinbeck, comme Drouhon, là, je viens encore de lire les mémoires de Drouhon. Quelle belle écrivain.
Qui vient de paraître.
Je dois dire que Je me délecte. Je ne voyais pas de flagornerie à son endroit. Bon, parce que ce sont des personnages qui ont enfin l'intelligence, texte et la façon de l'écrire. Un homme comme Kessel, un personnage passionnant, cette sorte d'aventurier, ce personnage, mais qui est un personnage hors du commun. Bon, Steinbeck, c'est encore autre chose, cette connaissance du Sud. En fin de compte, il avait parfaitement ciblé son tableau, en prenant ces trois écrivains que nous venons de citer.
Alors, Tino Del Duca, on vient de le dire, est quelqu'un qui a le sens du commerce, businessman.
Oui.
C'est aussi quelqu'un qui affiche également son courant de pensée. Il était donc antifasciste, on vient de le dire, il a fait de la prison pour ça. Et également, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, il fait imprimer 1 million de tracts de vinettes sur lesquels sont représentés une hyène, un tigre, un lion et une panthère. Et il faut trouver la cinquième bête féroce. Et en fait, cette cinquième bête féroce, c'était Hitler. Donc là, également, il prend ouvertement parti. Et effectivement, quelques semaines plus tard, les armées hitlériennes occupent Paris. Donc, non seulement homme d'affaires, mais aussi homme qui prenait parti ouvertement.
Qui prenait parti, qui avait une vision, j'allais dire en même temps, prémonitoire du devenir. D'ailleurs, je dois le dire que c'est un sentiment qui l'honore profondément. Cet homme n'a pas accepté, j'allais dire, d'être entraîné dans l'aventure aussi bien fasciste que hitlérienne. Et sa nécessité, à l'époque, j'allais dire, profond courage. Parce qu'effectivement, il s'est exilé de son pays natal.
Italie, oui.
Alors là, je connais effectivement un petit peu par ce qui m'a été dit concernant Tino Del Duca, politiquement, mais je dois dire que je ne connais pas donc dans le tréfonds qu'elle a été après son rôle pendant la guerre, je ne sais pas.
Alors, on marque une courte pause, Arnaud de Trives. On se retrouve tout de suite après pour évoquer la vie de Simone et Tino Del Duca après la Seconde Guerre mondiale. A tout de suite.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez.
Suite de notre émission Focus en compagnie du secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, Arnaud de Trives. Alors, Arnaud de Trives, on vient de se quitter au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Tino Del Duca a lancé des tracts, des millions de tracts, devinettes, dans lesquels il faut retrouver en fait, le nom d'Hitler.
Excusez-moi, je vous interromps. Ce qui est très, très amusant, c'est qu'en fin de compte, il n'avait pas eu un prédécesseur qui a balancé des tracts comme ça, mais dans un esprit très différent, qui était D'Annunzio, qui en fin de compte était parti en avion au-dessus de Vienne pour jeter ses tracts.
Tout à fait.
Il ne pensait peut-être pas qu'un certain nombre d'années après, ce n'était pas dans le même esprit.
Oui.
Parce que D'Annunzio était plutôt fasciste.
Effectivement.
En tout cas, soutenait.
En tout cas, Tino Del Duca, oui, effectivement, lui, à l'opposé, était antifasciste.
Absolument.
Redisons-le. Oui. Alors, juste après la guerre, c'est là que l'ascension, son entreprise, les éditions mondiales, connaît une ascension extraordinaire. Il va vraiment pouvoir développer des nombres de titres importants. Il va également créer une société de films avec des succursales en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en France, bien sûr. Et c'est à ce moment-là également qu'il va faire la connaissance de son épouse, qui ne sera pas encore son épouse, mais il va faire la connaissance de Simone Nirouet, c'est son nom de jeune fille.
Et qui était originaire d'Algérie.
Qui était donc
d'Oran.
Et cette jeune femme vient lui présenter dans son bureau un conte qu'elle aimerait faire publier dans l'hebdomadaire Aura, l'hebdomadaire qu'il a créé en 1932. Et elle voit une
nouvelle Aura, si je ne m'abuse, était une revue pour les jeunes gens, plus ou moins. Ce n'était pas vraiment pour les enfants, mais pour...
Entre deux âges.
Entre deux âges. Oui, je me souviens.
En tout cas, elle vient lui présenter quelque chose qu'elle a écrit. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent pour la première fois. Et finalement, ils ne se quitteront pas. Finalement, Tino Leluca adoptera et le comte et la femme.
Ils se sont vus, ils ne se sont plus.
Ils ne se sont plus, exactement. Est-ce que Simone Leluca, que vous avez connue, faisait référence à cette rencontre? Est-ce qu'elle vous en avait déjà parlé, vous qui étiez proche?
C'est très étrange. Je reviens encore à ce côté un peu sphinx. Était celui donc de Simone, que l'aspect que donnait Simone, c'était un personnage très réservé. Même dans ses habitudes, ses affections, on sentait que cela venait de quelque chose d'extrêmement profond, de vrai, de senti. Mais ce n'était pas le personnage qui allait se confier. C'était un domaine qu'elle gardait en quelque sorte secret.
Elle restait très pudique.
Oui, il y avait, j'allais dire, sa vie publique. En fin de compte, c'était une des figures du monde, j'allais dire, parisien. Mais, par contre, lorsque l'on abordait, certains domaines, elle avait une très grande pudeur. Effectivement, elle recevait toujours à la Fondation. Tous les ans, il y avait ce qu'on appelait des grands dîners. Alors, il y avait... un jour pour, non pas chaque invité, mais c'était très particulier. Donc, on la connaissait à travers le raout annuel. Alors, vous rencontriez toutes les personnalités de Paris. Son appartement, où elle donnait des dîners, qui se trouvait proche de l'école militaire, qui était un appartement relativement important, mais petit. Où, donc là, il y avait une certaine intimité, et il y avait également, pour ses amis proches, la Varenne, qui était la maison où... la maison, de son époux. Ils l'avaient donc aménagée ensemble, et où il y avait une énorme piscine, énorme, je dis bien, et où se retrouvaient les amis. Les intimes. Alors là, elle était très, très amusante parce que dans les dîners, ou dans les déjeuners plutôt, elle servait des vins absolument fabuleux. Fabuleux.
C'est pour ça que les gens l'aimaient bien.
Oui, voilà.
Mais oui, alors en fait, vous nous dites que finalement,
il
y avait deux personnages. En fait, il y avait, vous voulez dire que Simone, il y avait le personnage public et le personnage privé, et qu'elle n'allait pas s'étendre sur sa vie privée.
Et elle était toujours affable avec aussi bien quelqu'un de simple que quelqu'un, de haut placé.
Alors, quel était son rôle à côté de Tino Leluca? Elle le soutenait, elle l'encourageait, elle le freinait peut-être aussi dans sa volonté de toujours créer de nouvelles entreprises, avoir de nouvelles idées.
Je n'ai pas le sentiment. Elle avait une telle confiance, une telle admiration, ce que je crois comprendre, pour son époux, qu'il ne serait jamais venu à l'idée. Car elle avait le sentiment que tout ce qu'elle était elle-même, dans une grande part, venait de son époux, venait de son mari, de Chino. En fin de compte, c'était une admiration extra. Souvent, je suis réservé pour ce qui est du mariage. Je me dis, au fond, c'est quelque chose parfois un petit peu contre nature, excusez-moi le terme, mais pour certains couples que je connais, où le mariage est une parfaite réussite, où il y a une osmose réelle entre l'enfant, c'est quelque chose de merveilleux. Ils se portaient mutuellement, mais le battant était en fin de compte tout de même Chino, qui avait les idées, et peut-être que parfois elle lui a dit, mais bon, il faut peut-être éviter cela, ou elle le ménageait en quelque sorte, mais il y avait cette admiration absolument extraordinaire.
Donc elle ne le freinait pas en fait.
Elle ne le freinait pas véritablement.
Alors,
elle le mettait peut-être en garde. Mais...
Alors, comme je le disais, c'est donc une grande ascension hein, que l'entreprise Cino del Duca. Donc, entre 1954 et 1957, si l'on résume, il a 7 sociétés d'édition, une agence de presse, une société de films, 2 imprimeries également. Et puis, en 1957, il acquiert la majorité du journal Franc-Tireur, qui est un journal aussi que vous avez connu.
Ah, c'est un journal, effectivement, qui est sorti à la fin de la guerre. Je crois que ça s'appelait d'ailleurs Franc-Tireur Partisan Français. C'était le titre complet.
Le titre complet.
Oui.
Alors, il va changer le nom, ça va devenir Paris Journal, puis oui. Paris Jour. Et ce Paris Jour va avoir un format plus petit que les quotidiens habituels. Et ça va être le premier tabloïd en France. Là aussi,
la maniabilité était plus agréable, alors que ces grands journaux... Effectivement, d'ailleurs de plus en plus, les journaux maintenant s'expriment de cette façon.
Donc là encore, il était dans l'avenir, il était vraiment en avant sur son temps. Et puis il avait encore le sens encore du commerce, puisque c'était un journal qui a très bien marché.
Et il avait, heureusement, plus, il avait, j'allais dire, l'émotion que proposait donc l'événement, ou même les événements qui allaient venir. C'était cette vision, j'allais dire, des hommes de talent, d'avoir une vision prémonitoire.
En 1959, il y a une chose amusante, si on peut trouver cette chose amusante, c'est que Cino del Duca, qui aura édité des romans à l'eau de rose de la presse tabloïde, hein, comme Paris Jour, ait fait docteur S, lettres et philosophie, honoris causa, à l'université d'Urbino. Alors, on aurait pu penser que ce titre-là aurait été attribué à un grand écrivain. Et chose amusante, c'est quelqu'un qui édite de la presse grand public et roman sentimental qui reçoit ce titre.
Moi, je trouve cela très bien, mais en Italie, il faut se dire que les choses se passent un petit peu différemment, j'allais dire, dans les pays anglo-saxons ou même dans notre propre pays. Ce que vous venez de dire, effectivement, nommé docteur honoris causa, quelqu'un qui s'est exprimé dans une littérature, j'allais dire, de second ordre pour beaucoup, peut étonner, mais les Italiens, je crois, ont une vision beaucoup plus. C'est plus la personnalité, c'est la dynamique qui a été provoquée par cet homme autour. Parce que, en fin de compte, tout partait de très bons sentiments. Bon, même s'il a édité cette presse, bon, qui, disons-le, un intérêt relatif, bon, c'était tout de même pour aller beaucoup plus loin, pour éditer les écrivains dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, je crois que les Italiens, en fin de compte, ont honoré, le terme peut être employé, Cino del Duca, pour tout un ensemble de créativité, d'intelligence, de dynamisme. En fin de compte, c'était une figure.
Alors, en 1967, Cino décède.
Oui.
Et son épouse, Simone, crée 6 ans plus tard, en 1975, la fondation Simone et Cino del Duca. Mmh. Une fondation
en mémoire de son...
En mémoire à son mari, à son époux. Et c'est une fondation avec beaucoup de prix, et des prix, des très grands prix, avec des sommes assez importantes, et notamment des prix qui partent de l'Académie des Beaux-Arts.
Alors, un certain nombre de prix sont attribués par l'Académie des Beaux-Arts, mais vous le savez, il y a également de grands prix scientifiques qui sont attribués avec un jury qui est composé de membres de l'Académie française, de grands professeurs.
Tout à fait, il y a un prix scientifique, un prix mondial, un prix d'archéologie, et ensuite il y a donc les...
Qui sont d'ailleurs des prix plus importants que les prix, j'allais dire, attribués à des artistes. Mais pour des artistes, ce sont des sommes tout à fait substantielles.
Et donc oui, effectivement, pour l'Académie des Beaux-Arts, il y a des prix qui sont
Alors,
chaque
nous
année...
Nous avons chaque année un prix en peinture, sculpture...
Composition musicale,
voilà.
Et puis une bourse pour aider les jeunes musiciens,
absolument.
Je crois.
Absolument. Donc ce sont des bourses tout à fait, j'allais dire, et des prix tout à fait substantiels. Alors qui vont vers des artistes confirmés.
Mais alors, finalement, pourquoi Simone Del Duca a décidé de donner en faveur de cette académie? Elle donne effectivement pour plusieurs prix, hein, effectivement, oui. Ça touche à tous les domaines, hein, oui. l'archéologie, la recherche contre les grands maux de la société. Donc en fait, ça correspond surtout aux grandes maladies actuelles.
Absolument. Mais ça, c'est une facette du personnage. Oui. Bon, je pense qu'elle aurait été aussi honorée si elle avait été élue, bon. Il fallait trouver les circonstances à l'Académie des sciences ou dans une autre académie. Bon, pourquoi pas, mais elle aimait particulièrement les artistes. Les artistes, en fin de compte, la fascinaient parce qu'en fin de compte, pour elle, c'était un peu l'image d'une certaine liberté, une façon de voir les choses différemment de la majeure partie, donc des autres personnes. Et elle était très contente. Je sentais, quand elle assistait à nos séances, parce qu'elle était très, très attachée aux séances du mercredi, qu'elle retrouvait des confrères donc, qu'elle a connus, bon, relativement bien, des gens comme Pierre Cardin, comme il y avait également le compositeur Olivier Messiaen, bon, qu'elle côtoyait des cinéastes, donc, qui étaient tout de même des gens important, que ce soit Schoendorfer, que ce soit, non, je ne sais pas si elle a connu Carnet, Clément, bon. Pour elle, c'était en fin de compte un petit peu des personnages du monde qu'elle affectionnait. Et pour elle, c'était véritablement, on sentait un plaisir d'être parmi, j'allais dire, des artistes.
Et c'est un plaisir qu'elle aurait partagé avec son époux, s'il avait été encore là?
Ah oui, alors je vais vous dire une chose. Peut-être puissance, je ne sais pas, il se serait passionné certainement pour l'Académie des Beaux-Arts.
Alors, Simone Del Duca est décédée en 2004, et donc Cino Del Duca était décédé bien longtemps avant, en 1967. Aujourd'hui, oui. Quelle image on peut garder de ce couple qui a laissé sa trace et laisse encore sa trace à travers ses grands prix annuels de la Fondation Del Duca? Quelle image vous gardez,
je
par exemple.
Je ne voudrais pas user encore d'un lieu commun, un couple, j'allais dire, exemplaire dans le sens où on l'entend. Cette affection qui existe entre deux êtres, qui ne sont pas du tout petits, même dans leur amour, qui sont des personnages, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais qui sont tout à fait hors du temps et qui, associés, ont fait des choses quand même extrêmement importante pour eux dans le départ par le fait qu'ils ont créé, comme vous le disiez, ces imprimeries, toutes ces sociétés, mais d'abord dans un but qui était celui d'aider, dans un esprit donc, je n'allais pas dire caritatif, mais en tout cas de promouvoir, de mettre tout ce qui était donc en leur pouvoir pour aider les artistes ou les scientifiques, et ça c'est formidable. Je crois qu'un couple qui a toute sa vie un désir d'aider, d'être proche de l'autre, eh bien, malheureusement, ce n'est pas courant. Surtout de nos jours où les gens ont une propension, comme on dit, ça peut-être toujours été, un certain égoïsme, à préserver certaines valeurs. Bon, Simone et Cino Del Duca ont été des personnages vraiment qui ont beaucoup donné de même, et qui l'ont donné, d'autant plus que c'était en fin de compte leur fortune.
Oui,
comme vous le savez,
que l'Institut une fortune
a bénéficié, j'allais dire, la fortune de Madame Del Duca, effectivement, qui est extrêmement importante, bon, et de la Fondation, et cela, c'est tout de même un geste merveilleux.
Donc ça reste des personnages à part dans le monde de l'Institut.
Ah oui, ça, je dois dire, nous avons d'autres personnages de très grande qualité pour qui, je le dirais, j'ai une amitié, une affection. Une personne comme Simone peut avoir que de l'affection, en dehors de, je vous dis, de ses traits. C'était un personnage qui était un peu en retrait, mais on sentait une telle qualité dans le personnage.
Eh bien, merci, monsieur le secrétaire perpétuel Arnaud Dautrive. Merci de nous avoir donc éclairé sur le sujet Simone Echino del Duca. Je rappelle que Simone del Duca était correspondant à l'Académie des Beaux-Arts et c'est ce qui nous a valu de faire ce focus et d'ailleurs de pouvoir parler par extension de son époux, Chino, qui a donc participé à la création de nombreuses éditions et à la nombreuses publications de magazines, presse féminine, presse sentimentale et tout ce que nous connaissons actuellement. Merci beaucoup, monsieur Arnaud Dautrive, de nous avoir accompagnés. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.